تستمعون إلى إذاعة التغيير. Allô, allô, salam alaikum, ya el salam, marhaba bikoum. Vous écoutez Radio Tahrir, la radio du changement, la radio du CCD, Congrès pour le changement démocratique, une web radio libre qui essaye tous les mercredis soirs d'organiser une émission. Et c'est une émission à laquelle vous pouvez participer, Khaouti, à travers Skype, en appelant Skype, il faut aller sur Skype, CCD Live. Tout attaché, CCD Live. Et vous cherchez ça sur Skype. Vous pourrez participer à nos émissions en direct. Il suffit d'appeler ce compte Skype. Ce soir, Inch'Allah, nous avons un sujet. À mon avis, c'est un sujet très important. Le sujet, c'est le problème du logement en Algérie, le problème de l'habitat par ailleurs, en fait, parce que le problème du logement, finalement, n'est qu'un symptôme de problèmes beaucoup plus complexes et de problèmes beaucoup plus profonds. Donc, on va essayer d'aborder le sujet, problème du logement, le problème de l'habitat, de l'aménagement du territoire, le problème de l'espace de vie des Algériens, où est-ce qu'ils vivent, et à mon avis, le problème du lieu de vie ou de l'espace de vie de la majorité des Algériens contribue, le problème Hada contribue très clairement au mal-être des Algériens. Pour cela, en principe, si j'arrive à les contacter, nous devrions avoir deux invités ce soir, deux architectes qui sont aussi militants fondateurs du CCD, Madame Hajj Hamou et Monsieur Si Shaib. Vous aussi, Khaouti, qui nous écoutez, vous pouvez nous appeler. Il suffit d'appeler CCD Live sur Skype pour participer si vous avez quelque chose à dire sur le problème du logement en Algérie. Comme vous savez, le problème du logement, c'est-à-dire d'abord, il y a une crise du logement qui est énorme, mais sinon, on sait aussi qu'il y a un sérieux problème, par exemple, des terres agricoles qui sont complètement transformées en zones habitables, en zone de construction en fait, et tout le monde le sait, hein, surtout les gens de la région centre, mais partout en Algérie, les villes, elles ont mangé toutes les terres agricoles qu'il y a autour, et elles ont atteint les campagnes, la frontière entre la ville et la campagne, il y a presque plus, et par exemple dans les régions du centre, là où il y a de grands territoires de terres fertiles, ben elles ont été construites, des cités, des bidonvilles et tout, apparaissent un peu partout d'une manière très rapide, d'une manière incontrôlée, donc ça c'est aussi un grand problème, c'est le problème du foncier, une autre chose aussi, c'est le fait que les villes débordent parce qu'il y a trop de monde. Hein. On sait qu'en Algérie, pendant des décennies, les populations se sont déplacées des régions rurales vers les grandes villes, notamment Alger, qui est devenue une métropole énorme. Eh bien, ces villes-là, elles ont débordé et il y a eu des bidonvilles autour et il y a eu des cités qui se sont construites, des cités qui apparaissent un peu partout. Et là aussi, un autre problème, c'est que ces cités, elles ne sont pas pensées, elles ne sont pas réfléchies. On ne les a pas construites dans un cadre global réfléchi pour que ça se passe bien, pour que l'espace soit bien géré, pour que la population se répartisse d'une manière normale sur le territoire. Eh ben non, on n'a pas ça. Et voilà, donc nous, on se pose la question, en fait, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce que fait le gouvernement et l'État algérien et le régime algérien pour régler ce problème ou ces problèmes-là? Est-ce que dans notre pays, il y a des plans qui permettent de gérer ce genre de situation, de gérer l'aménagement des territoires, en fait? Est-ce qu'ils existent, ces plans-là? Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite? Et si ces réflexions sont faites, est-ce qu'elles sont applicables et appliquées, etc.? C'est ce genre de questions que nous allons essayer de débattre ce soir. Très bien. Donc, Madame Hajj Hamou, marhaba bik.
Oui,
Marhaba Bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour parler de ce sujet. D'abord, peut-être vous présenter vite fait, Madame Hachamou, vous êtes architecte, vous êtes basée à Alger et vous êtes aussi une des fondatrices du CCD. En fait, le sujet du mal logement, j'allais dire, il est très très grave. Je pense qu'il concerne une grande partie des Algériens. C'est un vrai problème qui dure depuis très longtemps. Et je pense que jusqu'à maintenant, on lui a pas trouvé des solutions en Algérie, malgré les promesses et les chiffres annoncés par le régime en place ou là par les ministres depuis un moment. C'est-à-dire que c'est un gros problème auquel on n'a pas encore trouvé de solution. Vous partagez cet avis?
Ah, ben absolument. C'est un gros problème. C'est le problème majeur du quotidien des Algériens. Et c'est vraiment un problème auquel tous les pouvoirs qui se sont succédés, mais en réalité c'est le même pouvoir, hein, sous des différentes formes, qui se sont succédés depuis l'indépendance, qui ont été incapables de trouver des réponses adéquates au problème. Ils prennent à chaque fois des mesures complètement conjoncturelles, dans l'urgence, et ça ne résout pas le problème. C'est la politique globale qui est en cause, c'est pas le logement en particulier, c'est toute la politique toute la réflexion sur l'économie, l'usage du foncier aussi qui est très important, le financement de ces logements, la qualité de ces logements. Bref, c'est toute la politique de l'aménagement du territoire également qui manque complètement de vision stratégique et qui n'agit que au jour le jour, si ce n'est pas dans des intérêts occultes. Ça, c'est encore autre chose.
Juste sur ce point-là, puis on reviendra, c'est-à-dire pour aller plus loin, parce que vous venez de dire qu'il y a encore d'autres explications et que le mal est encore plus profond que ce qu'on voit en fait. Mais à ce propos, on a quand même des gouvernements qui viennent d'annoncer depuis ces quelques dernières années, notamment grâce au prix du pétrole qui s'est envolé, et ils ont annoncé énormément de programmes de construction en fait. Qu'en est-il réellement en fait de ces programmes? Qui met le programme HEDEC à ADL ou la ADDL, je ne sais plus comment il s'appelle, qui promet en fait aux gens d'accéder ou d'avoir accès au logement d'une manière facile. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça a résorbé la demande?
Ça n'a pas résorbé, ça a peut-être calmé un petit peu, ça a mis un peu de baume sur la plaie, mais le problème, il est structurel, il est fondamental et il n'a pas été abordé du tout. Ils ont construit des cités dans des zones complètement isolées, des cités avec une très grande concentration de population, des cités isolées de tout. Il n'y a que de l'habitat, il n'y a pas d'équipement d'accompagnement, il n'y a pas de travail, donc les gens seront obligés de se déplacer loin pour travailler. C'est vraiment des politiques qui ne tiennent pas compte de tous les paramètres. On construit du logement comme des cages à poules pour parquer les gens. Et ensuite, on se demande dans quelques années quand il y aura des problèmes sociaux. D'ailleurs, ça a commencé très vite. Hein, dès qu'elles sont habitées, quelques semaines plus tard, il commence à y avoir des guerres des gangs, des gens issus de quartiers différents qui se font la guerre, notamment les jeunes. En fait, ça ne résout absolument rien. Les gens sont contents le jour où on leur donne les clés. Et quelques semaines après, quelques mois après, ça devient devient de fléaux sociaux, mal vie, sans parler de la qualité du logement, du coût de ces logements, du coût réel de ce logement. Enfin bref, ils ont tout fait faux et c'est dramatique parce que on a gaspillé de l'espace pour ça, on a donné des illusions aux gens qui souffrent et qui ne voient toujours pas le bout du tunnel. En fait, c'est un crime économique aussi, hein, social et économique.
Ouais, je vois ça. En fait, je pense qu'on peut le dire, corrigez-moi si je me trompe, l'une des raisons principales des émeutes qui se produisent et des mouvements sociaux qui se produisent un peu partout en Algérie, c'est le problème du logement ou de l'habitat, soit parce que des logements ont été distribués et ils ont été mal distribués, la population elle est très mécontente, elle sort dans la rue, on a vu des manifs et des routes qui ont été bloquées, etc., par la population, un peu partout, et systématiquement, quasiment, c'est lié à ce problème-là. Par exemple, il y a des gens, ils n'ont pas de d'électricité, d'autres ils n'ont pas de gaz de ville, etc. Du coup, c'est l'une des raisons principales du malaise social en Algérie. Et je voulais poser une question, rien que parce que Madame Hajj Hamou, elle est à Alger, je voulais savoir où on est à Alger dans tout ça en fait. Est-ce qu'elle a été désengorgée? Est-ce que moi j'y ai vécu à Alger dans les années 90, c'était déjà très encombré, mon Dieu, en termes de transport, de nombre de voitures qui circulent, de pollution. Je ne sais pas ce qu'il en est 20 ans plus tard.
Ah non, ça ne change pas parce que le rythme de construction de logements. Il n'est pas synchronisé avec l'augmentation de la natalité, l'augmentation de la population. Donc, plus on construit, mais on n'arrive pas à répondre à la demande. Donc, le problème, il se répète continuellement. On n'arrive pas au bout du tunnel, d'autant plus que les politiques ne sont pas du tout adaptées, que le rythme de construction est insuffisant.
Donc, par exemple, on peut dire que l'offre ne répond pas à la demande en termes de logement. Il y a un déséquilibre.
Ça c'est certain, complètement, oui.
D'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire toujours dans le même sens, parce que quand on dit ça, moi je me suis un petit peu documenté sur le sujet, j'ai été vérifier un peu ce qui s'est écrit à ce propos, j'ai vu que, par exemple, il y a des plans. Il y a les fameux plans, d'urbanisme, les plans de construction, les plans d'occupation des sols. On dirait, mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe, ou quand on voit les résultats, peut-être qu'il y a un sérieux problème, mais on dirait qu'il y a quand même des plans, il y a une réflexion qui est faite. Est-ce que ce n'est pas le cas?
Oui, il y a une réflexion, certainement, mais une réflexion qui ne prend pas en charge tous les paramètres. Une réflexion qui est orientée dans le mauvais sens, une réflexion qui est orientée surtout quand on leur laisse le temps de faire les réflexions dans l'urgence, construire vite des logements pour calmer le
citoyen qui revendique
pour éviter qu'il y ait l'explosion sociale, parce que en fait le but c'est d'éviter l'explosion sociale. Tout est fait en vue d'éviter l'explosion sociale, de calmer les gens, de leur donner de l'espoir, de les faire patienter. Voilà.
Ouais, d'accord, ok. Pour revenir au sujet, en fait, moi je me dis, si on a des plans d'occupation des sols, si on a des plans d'aménagement des territoires, ça devrait normalement, je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'il y a des bilans qui sont faits? Est-ce que, par exemple, je lisais tout à l'heure les chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement de ces dernières années en termes de construction, est-ce qu'on peut les vérifier, ces chiffres, par exemple? Est-ce qu'il y a moyen de les vérifier? Quand ils nous disent qu'ils ont construit 1 million de logements et des choses comme ça.
Le problème, c'est que c'est difficile de les vérifier, mais on a du mal à croire qu'on construit 1 million de logements en 5 ans. En général, ils s'arrangent pour inclure dans ce million les logements qui avaient été lancés auparavant, etc. Mais ça, ce sont des détails. C'est pas le plus important. Mm-hmm. Le plus important, c'est que quand on a des plans d'occupation des sols, mais qu'à côté de ça, il y a le chef du gouvernement qui appelle les différentes directions et qui leur dit « Trouvez-moi d'urgence des assiettes d'implantation pour des cités de logements immédiatement », c'est la panique. On oublie tous les postes, on oublie les schémas d'aménagement du territoire, on oublie tout. Et c'est dans l'urgence qu'on est là en train de chercher des surfaces à urbaniser rapidement. Des fois, ce sont des surfaces agricoles. Des fois, ils prennent le temps de les faire passer, de les faire changer de statut. Des fois, ils ne prennent pas le temps. Et on se retrouve avec des aberrations sur le plan d'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'extension des villes, l'extension anarchique. C'est-à-dire que l'urbanisation sauvage, elle n'est plus le seul fait des citoyens qui construisent des bidonvilles, elle est aussi le fait de l'État. L'État aussi fait de l'urbanisation sauvage. Elle n'est pas aussi, faite avec des tôles et du parfum, elle est faite avec du béton et de la brique, mais en termes de résultats, en termes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, c'est tout aussi
décevant. Allô?
Allô, oui, monsieur Lyass Hichaib, marhaba bik.
Salam alaikum.
Pardon, madame Hajj Hamou, excusez-moi 2 secondes. Donc, marhaba bik, merci beaucoup d'être là parmi nous pour ce sujet du logement, enfin du problème du logement et de l'urbanisme.
Je vous en prie.
Je reviens à vous dans 2 secondes.
Parce que j'ai un problème de connexion, sa mère. Hein.
Moi, j'ai l'impression que là, j'espère qu'on va pas te perdre là, mais là, le son il est nickel, il est net et tout, donc pourvu que ça dure.
Ah, yeah, d'accord, ok.
Impeccable, impeccable. Allez, allez-y, Amel, excusez-moi.
Oui. Moi c'est bon.
Très bien, très bien.
Je vais dire un peu autre chose, quelque chose de différent peut-être.
Très bien, juste, je ne sais pas s'il nous écoutait, mais j'imagine que c'est un problème de connexion. Sur la question du problème de logement, Khoya Elias, à la base déjà, architecte, tu as eu à observer un peu ce qui se passe autour de toi à propos de ce sujet de l'urbanisme, du logement des Algériens, des cités qui ont été construites ou qui sont sorties un peu d'une manière sauvage tout autour d'Alger ou de la capitale. Est-ce que ça dit un petit commentaire par rapport à ce problème?
D'accord. Je vais vous dire quelque chose, professeur. Mm-hmm. On ne peut pas parler de ce sujet juste qu'il m'offre le mot d'adab يعني بمعزل على الجو العام والسياسات العامة اللي راهي مفروضة علينا ومطبقة في جميع القطاعات هذه يعني il faut bien qu'on comprenne il est important de rappeler que le terme ne peut pas être considéré en dehors des politiques du tourisme, de l'agriculture, en dehors de ces politiques qui ont conduit à la faillite actuelle et qui sont justement le résultat d'une incompétence générale dans la gestion des dossiers, incompétence qui est justement la conséquence logique de ce régime de la médiocratie qui nous mène pratiquement, quand on voit l'état des lieux de n'importe quel secteur d'activité, on ne peut pas ne pas déduire que les échecs de ces politiques sont finalement le raison d'être. Ce ne sont pas des échecs qui sont là pour faillir à tous les niveaux. Ce n'est pas possible, avant d'arriver à ce sujet du logement, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire, je voudrais dire que ce n'est pas possible d'arriver à un tel fiasco sans penser que le but de ces politiques, c'est justement de maintenir le pays dans cette situation de retard. Ce n'est pas possible. Donc, d'ailleurs, ça explique notre engagement au CCD. Maintenant, pour revenir au problème du logement, avant d'arriver au problème du logement, de l'urbanisme, de l'architecture, il y a un problème d'aménagement du territoire. Mm-hmm. C'est quoi l'aménagement du territoire? C'est la politique, cette politique d'aménagement du territoire.
Allô, je pense qu'on a été coupé, Khoya Elias, hein? Akhtimafia, Khoya Elias? Peut-être un Akhtimafia, mais là, on t'entend plus. Ah ouais, c'est un problème de connexion. Donc il parle l'IS, M. Sichaib, il parlait de problème d'aménagement du territoire. Il dit qu'il y a c'est là où naît le problème. Madame Hachemou, à ce propos.
Oui, il a évoqué le problème du foncier, la gestion du foncier. C'est un problème fondamental dans l'aménagement du territoire. C'est que l'État a le monopole du foncier. À partir de là, il en fait aussi un phénomène de rente qu'il utilise pour distribuer aussi pour sa clientèle. Et ça aussi, ça contribue à la déstructuration des territoires parce que il y avait une période où la priorité, c'était la conservation des terres agricoles. Depuis quelques années, les terres agricoles ne sont pas grignotées, elles sont dévorées par l'urbanisation, une urbanisation anarchique. Et on se demande dans quelques années, quand on n'aura plus, il y aura plus de terres agricoles, mais comment on va faire? On parle de l'autosuffisance alimentaire, mais on n'en est pas là, quoi. C'est dramatique ce qui arrive.
On a vu que les villes elles débordent, et on a vu aussi que la répartition de la population sur le territoire algérien. Allô, Lies?
Là, je suis désolé, connexion vraiment.
On a été coupé, ouais. Je te laisse continuer sur l'aménagement du territoire, puis on continuera la discussion en fait sur un peu ce que ça donne comme résultat. Mais d'abord, situer le problème bien comme il faut.
J'aimerais profiter avant que la connexion éventuellement existera.
Très bien.
Parce que les politiques d'aménagement des territoires, c'est ça le rôle de l'État, élaborer des actions volontaires de politique d'aménagement qui ont justement et en finalité de favoriser le développement des différentes régions, d'influer sur la localisation des activités. Justement, l'État est là, elle a la responsabilité de cette cohésion nationale à travers des politiques et des équilibres entre pour éviter les inégalités entre les territoires. Le problème qui se pose, justement, on sait tous que gouverner, c'est prévoir. Les outils Hadouma, justement, ils permettent au pouvoir public d'inscrire leur réflexion de développement stratégique dans le moyen terme, des fois sur 20 ans, sur 30 ans. Là, le problème qui se pose, malheureusement, c'est que les problèmes, à partir du moment où il n'y a pas de travaux qui se font à long terme, là, c'est le bricolage, c'est de régler le problème au jour le jour. À chaque fois, les problèmes nous explosent à la figure. Alors que l'État doit avoir des outils, des moyens, des instruments d'urbanisme et de conception d'urbanisme pour prévoir comment va devenir, par exemple, les orientations des villes ou des régions. C'est vrai qu'ils n'ont pas la possibilité de prévoir exactement, mais plus ou moins. C'est-à-dire que quand il y a des problèmes qui surgissent, l'État a déjà la belle. Hein. Elle a une idée sur la manière de régler les problèmes qui se posent à elle. Et justement, il y a le problème, c'est qu'au niveau des textes de loi, au niveau des outils législatifs qui existent, ou là, des textes de loi, qu'en coulisse, nous avons tout. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas un problème de loi. Ils respectent les engagements. Par exemple, quand on regarde la loi d'aménagement du territoire, 2002. Allô?
Oui, c'est bon, ça passe.
Allô?
Ça passe, hein, ça passe très bien.
D'accord. La loi 10.02, le schéma national d'aménagement du territoire. Bon, c'est Houma, ils le disent eux-mêmes. Ils disent c'est pour préparer les échéances de demain. C'est une bonne chose. Le problème qui se pose, c'est qu'avec les intentions qui fixent eux-mêmes, comment doit-on interpréter ces déséquilibres monstrueux dans la répartition de la population sur le territoire national? Il faut savoir que 87% de la population totale algérienne vit sur 13% du territoire national. Ça, c'est des aberrations. C'est eux-mêmes qui le disent. Le problème, c'est que quand il fait pour régler ce problème, il parle par exemple de zones de tampons, de pôles d'attraction. Eux-mêmes, ils le disent, d'attractivité. Mais voilà le résultat. Le résultat, c'est que les Algériens ou la population algérienne se trouve concentrée sur l'ensemble du territoire du Nord. Alors, ça cause quoi? Ça cause les problèmes de surdensité des villes, avec tous les problèmes que ça pose sur les problèmes de les conséquences sur la densité des grandes villes, les désagréments sur la vie des citoyens, l'apparition de fléaux sociaux. Ça, c'est directement lié avec cette surdensité, les fléaux sociaux, les entassements de population sur des sites qui ne peuvent pas les contenir. Et justement, leur assurer les commodités d'une vie décente. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un producteur de richesse, parce que les villes, généralement, les villes, c'est là où se fait l'activité économique. Là, c'est des concentrations, un entassement, où il y a l'oisiveté, la débrouille et le commerce informel.
Est-ce que c'est valable? Pardon, smahli, Lies, de te couper comme ça. Est-ce que c'est valable, parce que ça, c'est valable pour la capitale et sa région, est-ce que c'est valable pour les autres régions?
Je parle des grandes villes.
C'est valable pour Oran, Constantine et des choses comme ça.
Absolument, Alèche, mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les gens qui font le rush, d'ailleurs. À partir du moment où il habite, l'État ne lui assure pas le travail, ne lui assure pas le logement, ne lui assure pas le divertissement, ne lui assure pas le théâtre, il se divertit. C'est tout à fait normal que ces gens-là vont vers la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas leur faute, l'exode, parce que même au niveau des croissances urbaines, c'est même pas lié au seul fait de la croissance démographique. il y a des déplacements qui sont causés à partir du déséquilibre dans l'aménagement du territoire. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par là.
Et juste pour une question pour toi, puisque tu es dessus, est-ce que, par exemple, moi tu m'y fais penser, est-ce que la région du Sud n'est pas, par ailleurs, à cette occasion, abandonnée? Parce qu'on a vu les gens du Sud, ils ont fait énormément de mouvements sociaux à propos de leur mal-être. Il y a un manque d'infrastructures et j'en passe et des meilleurs. C'est-à-dire les villes sont isolées, des cités sont construites sans commodité. Par rapport au Sud, est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre? Et là aussi, c'est un déséquilibre des territoires, en fait.
C'est exactement ce que je dis, Samer. C'est exactement ce que je dis. C'est-à-dire que le déséquilibre, il fait que les gens vont vers le nord. Alors, vous pouvez demander au docteur Maïs, je ne sais pas s'il est avec nous. On a été à Ain Salah, qui est une grande daïra du Sud. Dites-lui de vous raconter le dénuement Hadak. Aucune infrastructure digne de ce nom. Il n'y a rien. Hadi Wasmoud Ain Salah. Il l'a vu. On a même Tamanasset, c'est la même chose. Donc, le déséquilibre, c'est justement, je parle de ce déséquilibre.
Très bien.
Même Bad, qu'est-ce qu'on fait au niveau du Nord? Il y a la Libye, il y a une croissance, il y a une demande, il y a un problème urgent, il faut régler le problème de logement, entre autres. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va vers les terres agricoles. Mais la Libye, la crise de logement était inacceptable pour justifier les agressions et les crimes. C'est des crimes commis sur les terres agricoles.
Justement, je voulais poser cette question à Madame Hachamou sur les terres agricoles, c'est-à-dire on a vu et les terres agricoles ça revient à l'urbanisme un peu anarchique ou à la construction anarchique. Moi, j'ai vu rien que sur votre page Facebook l'autre fois, vous aviez, je ne sais pas si c'est vous qui avez pris la photo, mais à Alger, des gens ont fait une construction en briques et en béton collé carrément à la mosquée le Sahd Chouhada.
Djamaa Kbir, une mosquée d'Algérie même. Oui,
ce qui est aberrant, parce qu'il y a des lois et des règles qui protègent ce type d'endroit d'abord, et puis il y a des règles de construction. Est-ce que les autorités, l'État, Doula, en l'occurrence, c'est-à-dire la commune d'Alger, etc., est-ce qu'ils interviennent sur ce genre de choses, ou là ils laissent faire, ou là ils n'ont pas les moyens, ou là, comment ça se fait qu'on en est arrivé là?
Théoriquement, ce genre de cas relève de la direction de la culture ou du ministère de la culture, hein, parce que c'est eux qui sont responsables de la protection des biens culturels, et c'est à eux qu'il revient d'abord de contrôler tous les sites à travers le pays. Et
d'agir protéger.
quand ça contrevient à la loi. Et dans ce cas-là, ça contrevient totalement, parce que c'est dans le périmètre sauvegardé de la Casbah d'Alger, c'est un monument classé, donc il ne fallait rien y construire, et même que si on construit, ça demande vraiment un contrôle, beaucoup de contraintes, c'est très difficile. Alors là, encore une fois, l'État, il a tous les outils qu'il faut, mais les meilleures lois du monde ne servent à rien si on ne les applique pas. Donc nous avons un très grand arsenal de lois. On nous a dit oui, vous allez voir, on va faire des lois et tout. Mais le résultat, le voilà, c'est qu'aujourd'hui on a les lois, mais on n'a pas l'application. Et comme l'a dit Monsieur Sicheïd, c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines, si la politique n'est pas motivée pour faire appliquer les lois, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va prendre des exemples. On parle de l'urbanisme, de l'urbanisation anarchique. Ils construisent sur les terres agricoles, c'est une chose, mais ils construisent aussi en dehors de toute agglomération des cités. Donc on construit 300 logements en pleine campagne, en bordure d'autoroute. C'est même pas une extension d'une agglomération. Mais après, ces gens-là, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils sortent de leur agglomération, qu'ils aillent travailler. Comment ça va se passer? Déjà que les autoroutes sont saturées, il n'y a pas de transport public. C'est-à-dire, on a vraiment le sentiment qu'on ne réfléchit pas. On dirait qu'ils prennent des dés, qu'ils les jettent, et là où les dés tombent, on construit. C'est incroyable d'imaginer une chose pareille, alors que c'est quand même le destin des populations qui est en jeu, d'un pays. C'est inacceptable.
C'est un problème qui contribue lourdement au mal-être des gens. C'est pour ça que les gens, ils ne sont pas à l'aise là où ils sont. Ils n'aiment pas les endroits où ils vivent. Et je passe sur ce que vous disiez tous les deux tout à l'heure, sur les conséquences du genre violence dans les cités. Et j'en passe, et des meilleurs. Les autorités ne sont donc... Quand on voit la petite photo là qui se passe en plein centre d'Alger, dans un endroit très connu, très vu, au vu comme ça des gens, on imagine ce qui se passe à l'intérieur du pays, là où les choses...
Si vous permettez, je voudrais citer un autre exemple pour montrer que la gestion de l'urbain, c'est quelque chose d'important et que ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'une petite formalité administrative qui paraît comme ça inoffensive, elle peut avoir des conséquences. Par exemple, au centre d'Alger, il y a un groupement sportif qu'on appelle le groupe laïque au champ de manœuvre, qui est un très grand complexe sportif construit du temps de la France évidemment, et qui est regroupé toutes sortes de stades, de terrains de sport, etc. Et imaginez en plein centre d'Alger, de champ de manœuvre, il drainait les jeunes de tous les quartiers populaires de Belcour, d'Alger Centre, de Medania, du champ de manœuvre. C'était vraiment un centre de vie très dynamique. Dans les années 90, le ministre du sport à l'époque se l'est approprié, enfin il l'a réquisitionné pour les équipes nationales, en plein centre-ville. Donc une simple décision administrative qui a eu des conséquences de priver une population des quartiers les plus populaires d'Alger par exemple, d'un poumon d'oxygène, de distraction, c'est plus que de la distraction, c'est de la formation le sport, d'encadrement des jeunes. Donc ce sont des mesures administratives qui ont des conséquences dramatiques après. Alors on se pose des questions, est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est fait exprès?
Absolument.
Ça, c'est vraiment la grande question.
Ça, c'est une question, je la réserve pour la fin de l'émission à monsieur Maïs. J'essaierai de lui poser une question s'il est encore avec nous, de toute façon.
Oui, je suis toujours là.
Très bien, très bien, très bien. Juste pour continuer, en fait, je veux bien, Anaïs, à dire, je veux bien que les gens qui nous écoutent ils comprennent un peu ça. Dire ça donne quoi cette urbanisation sauvage. On le vit au quotidien. Moi, quand je rentre dans mon coin, Fibjaya, j'hallucine en fait que quand je vois la manière avec laquelle les gens ont construit, comment ils peuvent déborder sur la route, comment ils peuvent déborder sur les trottoirs, etc. Mais je veux bien vous entendre, en fait, qu'est-ce que ça donne comme situation quand des cités apparaissent comme ça, d'une manière anarchique, dans les banlieues des villes, des grandes villes. Ça donne quoi, en fait?
Samer.
Oui, Elias, on t'écoute.
Je m'excuse, monsieur le docteur, m'excuse. Mm-hmm. Je voudrais juste intervenir, si vous permettez, mm-hmm. parce que avant d'arriver l'urbanisation Hadia, la manière de concevoir. Là, il faut rester, Chouya, si vous permettez, sur les terres agricoles. Il faut savoir que les terres agricoles sont nos propres textes qui régissent les lois de Tawana sont très stricts là-dessus. Qui m'a dit, madame Hajamou, les textes sont là, ils sont parfaits. C'est le suivi. Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'outils pour faire respecter nos propres lois. L'occupation des terres agricoles est contraire, même à nos propres textes réglementaires, qui sont pourtant très très stricts. Il parle de la sauvegarde de ses potentialités agricoles. C'est-à-dire, c'est pas possible, on peut pas aller. Il s'agit avec madame Hajamou tout à l'heure, le premier qui est en train de s'attaquer aux terres agricoles, c'est l'État, c'est lui qui construit les grandes opérations. Alors que les lois de ce régime, madame Smesh, l'État, les lois qui parlent des terres agricoles et les terres à vocation agricole, il a des instruments d'aménagement qui disent qu'il faut rationaliser et les sauvegarder. Alors là, je pose la question, à l'actuel, sauf la métige. C'est quelque chose, Raldouka, c'est devenu, sur le Malèche, les terres agricoles, mais c'est des massacres, c'est des crimes économiques. Ou quand je parle de...
Et ce n'est même pas la population qui construit n'importe comment, c'est carrément les autorités.
D'abord, c'est les autorités nationales sur le volet d'occupation des terres agricoles. Mm-hmm. Ben, de construire n'importe comment là, mm-hmm. c'est tout le monde, c'est l'État, parce que même il y a des programmes, les OPJ, même pas les terrains sur lesquels ils ont lancé les logements, le mm-hmm. mm-hmm. Mais pour les terres agricoles, c'est très très grave. C'est des terres agricoles, parce que les terres agricoles, même les textes, même si c'est des terres agricoles qui appartiennent au privé même, ils n'ont pas le droit de les morceler en l'eau à bâtir. C'est ce qui s'est passé dans l'Algérie. Donc, si vous permettez, parce que je crois que c'est très, très important, le problème qu'a les terres agricoles, où je m'excuse d'avoir intervenu.
Non, il n'y a pas de problème. En fait, nous, on essaye de cerner quand même la problématique, même si elle est énorme, un peu comme les sujets qu'on a abordés les fois d'avant. Ce sont des sujets, on devrait leur consacrer beaucoup plus d'émissions, de débats, et peut-être aussi écouter un peu pour moi, à mes yeux, hein, c'est très important d'écouter un peu les gens qui vivent cette situation de mal-être. Et des fois, parce que ce sujet-là, il est complexe, les gens n'arrivent même pas à mettre des explications sur des douleurs qu'ils ressentent, c'est-à-dire ils ont des problèmes et tout, mais on n'arrive pas à les expliquer. Donc on va essayer d'aborder en fait le sujet d'une manière comme ça globale, les terres agricoles. Mais sinon, je voulais revenir un peu sur c'est-à-dire les conséquences de cette situation. Qu'est-ce que ça fait quand on a des cités qui apparaissent sans aucun contrôle ou qui ne répondent pas à des normes qui des fois existent, puisque, comme vous disiez depuis tout à l'heure, les plans existent, les outils existent, mais qu'ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas mis en œuvre. C'est quoi la conséquence, en fait, pour les gens qui vivent dans des cités comme ça?
Chauffeur, c'est la même. Allô?
Allô, oui, c'est bon, ça passe.
C'est pour moi ou là, c'est pour le docteur?
Aux deux.
Mais là, chauffeur, oui.
Ou même aux trois.
Allez. Vas-y, c'est Lias, vas-y. Ouais.
شوف يا سامر علاش بديت هالك بلاميناجمون دو تيريتوار اون بعد بور بارلي علاش هي لا كونسونطراسيون سور كونسونطراسيون نيفو دي فيل بعد بور اكسبليكي علاش اون امبيتي سور لي تيير اغريكول maintenant on passe au niveau de ce que vous posez comme résultat du cadre bâti هذا لا كريز دو لوجمون دوكا هذا لا كريز دو لوجمون هذا بكل صراحه يا است اون اسوسي با لي بروفيسيونيل يا دي بروفيسيونيل يا دي سوسيولوج كي اون في دي زيتود parce qu'il y a eu des expériences en France qui ressemblent aux nôtres, parce que Houma, après la guerre, ils avaient un problème de logement, il fallait construire beaucoup de logements. Houma, ils ont commis des erreurs. Nous sommes en train de commettre exactement les mêmes erreurs. Il faut savoir une chose, qui m'épaule un sociologue français, qu'avant de loger les gens, il faut les connaître. Le plan d'un logement, ce n'est pas la faveur. Le plan d'un logement... il définit la civilisation, la manière de vivre des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Du point de vue purement technique, architectural, on prend des cellules. D'ailleurs, on appelle ça cellule, pour vous dire le peu de considération au logement. On prend des cellules à la française, à l'européenne, on vient les appliquer en nous balançant la figure des chiffres. Or, est-ce que c'est des chiffres qu'ils ont effectivement réalisés ou pas? Mais nous savons que même au niveau de la production de ce produit architectural, il n'est pas forcément fait pour des Algériens. Il faut faire des études sur l'homme, sur l'aspiration de cet homme. Parce que il vaut mieux être mal logé que pas logé du tout. Donc, c'est-à-dire, la philosophie, ils font n'importe quoi. C'est des logements à la va-vite. Les pressions qui se font sur les bureaux d'études, les études bâclées, parce qu'il y a un homme politique qui dit au bureau d'études, je veux l'étude la semaine prochaine sur mon bureau. Il y a des répercussions. Et c'est des études bâclées. Et puis même au niveau comment on appréhende le projet. On n'appréhende pas comme un produit architectural. C'est du n'importe quoi. C'est des plans masse. Bâtiment, et dans les pays qui se respectent, un plan masse se réfléchit, un plan masse se vit. Ou dans un plan masse, parce que vous parlez de cité, c'est important le plan masse dans la cité. Le vide qu'il y a entre les bâtiments, c'est pas un vide, il est aussi important au niveau de la conception que le bâtiment lui-même. Je ne sais pas si vous nous avez compris. Est-ce que c'est compris?
Très bien, très bien, très bien. Il n'y a pas que les petites boîtes là qui servent de logement, mais il doit y avoir aussi des espaces verts et des choses comme ça. Hein.
C'est absolument ça. Pas que ça, des équipements. En tout cas, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des cités dortoirs et qui sont en train d'avoir des conséquences très, très, très dangereuses sur les problèmes psychologiques de délinquance, de fléaux sociaux.
Moi, je discutais avec toi l'autre fois à ce propos et tu disais que c'était une bombe à retardement.
Absolument, absolument. Ou c'est des expériences vécues dans votre pays où ils ont prouvé que l'entassement qui se fait comme ça dans les cités a des incidences directes sur la délinquance juvénile. Mais ça, entre nous, bon, je vais dire, vous croyez que quelqu'un ou là, un premier ministre qui m'a dit qu'on a une économie de cabaret. Vous croyez que les gens à tout, ils vont se casser la tête sur le bien-être du citoyen? Et ça, c'est le résultat. Leur mentalité, nous voyons le résultat de leur mentalité, la gestion de tous les dossiers.
Merci. Madame Hachemou, juste peut-être une dernière question, parce qu'on a quasiment atteint les 1 heure de discussion. Après, je finirai avec Dr Maïs, parce que j'ai envie de lui poser en fait la question du rapport avec le politique, en fait. Et vous, Madame Hachemou, et même l'IS Ishaïb, vous avez abordé ça tout à l'heure, c'est-à-dire vous l'avez introduit. Je la poserai comme question à Monsieur Maïs. Juste, Madame Hachemou, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, si les gens ne respectent pas les règles urbanistiques, si c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ces règles-là soient respectées, pour qu'on ne construise pas une baraque avec des briques rouges adossées à un monument historique vieux de plusieurs siècles et protégé. Qu'est-ce qu'on devrait faire?
D'abord, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect du civisme. C'est comme si vous disiez que comment faire pour que les gens respectent les lois. Je pense que les citoyens respecteront les lois quand ils verront les commis de l'État respecter la loi et faire respecter la loi. Quand l'État sera crédible en tant qu'État, je pense que les gens, ils deviendront tous très... ils auront un comportement civique. Là, l'État montre l'État à longueur d'année qu'il ne respecte pas les lois en passant outre les propres lois qu'il émet, comme en ce qui concerne le Janajdé de la construction qui est construite à côté. Il paraît, on m'a dit que c'était pour construire le salon d'honneur du président, hein. Et ça a vérifié, cette petite baraque-là. Quand les gens verront l'État appliqué, je pense que tout rentrera dans l'ordre. La première chose, c'est que l'État redevienne crédible. C'est-à-dire que l'État montre sa volonté, sa bonne volonté, en appliquant la loi à lui-même d'abord. C'est à lui donner l'exemple. Et ensuite, je pense que ça peut rentrer dans l'autre. Tout est dans la volonté politique. Pour moi, c'est la première chose. C'est le premier pas. C'est celui-là.
Très bien. Il nous reste 10 minutes. Je peux peut-être poser une petite question avant de passer à le Khatima. C'est... Attendez, excusez-moi 2 secondes. En fait, en vous écoutant comme ça, j'avais pensé à un autre problème, hein, comme quoi, c'est-à-dire ce sujet, je pense qu'il a des ramifications très importantes un peu partout. J'ai pensé au problème de corruption parce que il est connu, quand on regarde les études qui sont faites partout dans le monde, et c'est valable, je pense, pour l'Algérie, les domaines où il y a le plus de corruption, c'est le domaine de la construction, de l'habitat, du béton et des grosses œuvres, etc. Est-ce que c'est le cas dans notre pays? Est-ce que vous l'avez constaté?
Moi, si vous permettez, je veux bien répondre à ça, si tu permets, Liès. Je vais dire oui, c'est connu parce que le domaine du bâtiment draine beaucoup d'argent. Mais dans un pays en plus où, comme le nôtre, c'est l'essentiel de la commande de la construction, c'est l'État, ça veut dire qu'il y a encore plus de construction. Plus l'État prend en charge le bâtiment, le logement, plus il y aura de construction. Parce que l'État, dans ce cadre-là, il est juge et parti. Et c'est comme ça qu'on encourage et qu'on favorise la corruption.
Très bien, très bien. Liès, à ce propos, c'est-à-dire la corruption dans tout ça, est-ce qu'elle a un rôle, en fait, dans cette anarchie?
Je redis exactement ce qu'a dit Madame Hachemou. Quand l'État, puisque c'est lui le plus grand maître d'ouvrage, il y a énormément d'argent, Donc, on déduit logiquement que c'est un milieu à corruption, yani, à outrance. C'est normal, ils lancent des opérations énormes. Nous ne savons pas les procédés de choix des entreprises. Nous ne savons pas comment ils font. Enfin, nous ne savons pas. Nous savons comment ils le font. La preuve, quand on voit la réalisation de beaucoup de cités, eh ben, on se dit un maçon, mais les catastrophes que l'on voit. C'est vrai, Romain, ils nous balancent des chiffres, 100 000, 200 000, 300 000 logements. Le Babzouar, c'est pas. Vous allez voir là le niveau de réalisation de ces logements, c'est inadmissible. Et les entreprises, comment elles ont été choisies? Ça veut dire qu'il y a des problèmes de corruption. C'est évident. Maintenant, je voudrais aussi, si vous permettez, Samir, le problème, c'est que dans la gestion de beaucoup de dossiers, il y a une interférence directe du politique. Vous avez des Wali ou là, ils interviennent sans demander l'avis des professionnels. Combien de choix de terrain ont été faits par un Wali? On va faire ceci. Il n'a consulté aucune équipe de professionnels ou de techniciens. Et ça, on va être contre le projet démarre, parce que les techniciens, ils vont avaliser ça, ils vont travailler dessus, on va dire, c'est eux qui vont assumer les erreurs, et on va être contre le chantier démarre, on se rend compte que le choix n'était pas le meilleur choix possible. Donc c'est très important de dire qu'il y a une très, très grande responsabilité en politique à Douma qui gère les différents secteurs, mais nous l'habitat. Et je terminerai par un petit exemple. Alors, j'ai travaillé dans une wilaya du sud, où le wali, je vais dire qu'il y a les bureaux d'études. Il dit, nous avons les bureaux d'études, vous vous rendez compte la conception qui se fait de l'étude. Un bureau d'études, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un travail de conception. C'est vrai qu'il remet du papier, c'est des documents graphiques et écrits, c'est le projet qui va voir le jour. Un wali qui te dit les bureaux d'études, si Mohamed, comment voulez-vous qu'avec des gens politiques comme ça, ils vont gérer un secteur comme l'habitat d'une manière intelligente?
Si vous permettez, je me permets de rebondir là-dessus. C'est vrai que dans notre pays, l'inculture est telle que le maçon qui construit un mur a plus d'importance que l'architecte, parce que l'architecte, il pense et ça se voit pas, parce que les pensées ne se voient pas. C'est pas du palpable. Et dans notre pays, malheureusement, nos politiques sont tellement incultes qu'ils veulent que du concret. Le maçon, il arrive à les convaincre, mais l'architecte, ça c'est un peu plus difficile.
Je vois ça, mais bon, moi quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans notre pays, un peu dans tous les secteurs, on retrouve ce genre de choses, malheureusement, c'est-à-dire l'incompétence règne et elle s'impose aux gens compétents, ce qui fait que les compétents, ils sont marginalisés, ils sont mis dans des placards et pour certains ils vont à l'étranger. C'est malheureux. Je vais essayer de finir, mais je reviendrai à vous deux pour vous donner la parole pour finir, mais une petite question, une dernière question à Monsieur Maïs, s'il m'entend. Monsieur Maïs, est-ce que... Très bien.
Oui, je suis toujours là.
Très bien. Si, je sais pas, vous avez suivi la discussion, je vous pose la même question, mais je vous laisse l'exprimer comme vous voulez, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier un peu le tir? Qu'est-ce que pourrait faire notre pays? Qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre pays pour rectifier un peu la situation des constructions illicites, des détournements des terres, du foncier, de l'urbanisation anarchique et, comme on disait au départ, ça a un impact très important sur le bien-être des Algériens.
Monsieur le Khalil Alikoum, moi je vais un peu rejoindre ce qu'a dit tout à l'heure Madame Hadj Hammou et aussi Elias, c'est qu'il n'y a pas de réelle volonté politique pour régler le problème du logement. Je vais citer juste, je ne veux pas qu'ils ont élevé un peu très haut le niveau, mais moi je vais me rabaisser au niveau de ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils ne réfléchissent pas comme ça. Ils pensent différemment et je vais vous le prouver. Il y a quelques années, il y a une étude qui a été faite uniquement au niveau de la wilaya d'Alger, hein, sur le nombre de logements inoccupés depuis au moins 20 ans. Le chiffre était de 30 000 logements inoccupés depuis au moins 20 ans.
C'est incroyable.
Le nombre de logements où il y a des sociétés à Alger, je parle uniquement d'Alger, le nombre de logements où il n'y a que des sociétés est de 65 000 logements occupés par des sociétés. Donc uniquement à Alger, vous avez environ 100 000 logements qui ne sont pas occupés de façon... Deuxièmement, ça va être des exemples comme ça en vrac pour que l'on comprenne comment réfléchit ce pouvoir en matière de logement. Il y a quelques années, les années Chadli, on a trouvé une solution. C'était quoi? C'était de donner des lots de terrain de 150 à 180 mètres carrés à qui? À des travailleurs, de simples travailleurs qui ont des difficultés pour arriver à la fin du mois pour nourrir leurs enfants, on leur donne des lots de terrain, et c'est des centaines et des centaines de lots de terrain à Alger, j'ai bien connu ce point-là, à des gens qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins quotidiens. On leur donne des lots de terrain pour construire. Et la raison pour laquelle, juste après cela, il y a eu des nabab, ceux qui étaient derrière cette loi, ils sont venus par la suite acheter ces lots de terrain à ces pauvres travailleurs et les ont revendus 50, 100 fois le prix qui a été cédé par les arts. C'est pour vous, Léa tout à l'heure a parlé des Wali. Eh bien, il était un temps où il y avait des quotas de logements que l'État construisait, il y avait des quotas pour chaque Wali en fonction des appuis du Wali, qu'il y a 10% des quotas de logements construits, alors 20%. Chez Frahmani, on avait des centaines de logements qu'il distribuait, enfin, qu'il vendait pour son propre intérêt, et ils avaient des gens qui rabattaient. Donc, dire que aujourd'hui, un autre exemple, le dernier exemple, qui c'est celui de l'ADN, en 2001, les gens ont souscrit pour un logement ADN. On les appelle maintenant en 2015 pour payer la deuxième tranche. 14 ans pour les premiers qui ont souscrit en 2001. Et toutes ces lenteurs et toutes ces façons de faire, derrière tout ça, il y a un gros, gros, gros problème de corruption dans la gestion du logement en Algérie. Pourquoi il n'y a pas cette volonté réelle de régler le problème du logement? Imaginez-vous le niveau de vie du citoyen algérien aujourd'hui. Le salaire moyen de l'Algérien est d'environ 25 000 dinars par mois. Il est en dessous de normes de pauvreté qui est pratiquement émise par les instances onusiennes. Donc, ce qui fait vivre ces familles algériennes, c'est que dans chaque logement, il y a 2, 3, parfois 4 salaires qui font que la famille arrive à subvenir à ses besoins. Régler le problème du logement, cela veut dire que l'enfant qui vient de se marier a son propre logement, le papa qui a son propre logement, la femme qui se marie, elle a le logement. Donc, ça va diminuer le niveau de vie de la société, enfin, des citoyens algériens, ce qui risquerait de créer d'autres soucis que le pouvoir aujourd'hui ne veut pas affronter. Parce qu'il y a un réel problème de niveau de vie dans ce pays. Donc, ceci d'une part. D'autre part, si on essaye de voir comment ces logements sont distribués, eh bien, ces logements qui sont construits par l'État, elles sont distribuées uniquement de façon bien organisée autour d'événements. Autour du troisième mandat, on a libéré 25 000 logements. Autour du quatrième mandat, on a libéré des logements. C'est autour de conjonctures bien précises qu'on libère des logements, ce qui fait dire que ce pouvoir-là utilise ce moyen uniquement, non pas pour essayer d'améliorer les conditions de vie des Algériens, mais l'achat d'une paix sociale, y compris dans le cadre du logement. Donc il n'y a pas une réelle volonté politique de la part de ce pouvoir pour régler ce problème, alors que les moyens financiers existent, les compétences existent, les bureaux d'études existent, tout existe pour pouvoir donner un bon coup pour régler ce problème de logement, mais on ne le fait pas. On le fait en fonction des conjonctures, en fonction d'une certaine politique, et comme l'a dit tout à l'heure nos amis, il y a une très très grosse corruption autour de ce dossier-là. La corruption, elle n'est pas uniquement au niveau des marchés, mais elle est aussi au niveau de l'achat des terrains, elle est au niveau des entreprises à qui on donne la construction de ces logements, elle est aussi dans le rang en béton, le ciment qu'on importe, elle est dans tout ce qui touche de près ou de loin au logement. Donc il y a un très très gros problème de corruption au niveau de ce secteur-là.
Monsieur Maïs, l'autre fois vous me disiez, juste en discussion, en discutant entre nous, que par ailleurs, hein, c'est-à-dire pour élargir un petit peu, le problème du foncier, le jour où on ouvrira le dossier du problème du foncier, ça va être une bombe. C'est ça?
Absolument. Ah, et c'est là-bas, malheureusement, j'ai essayé de convaincre un ami qui était très très près de ce dossier-là. Malheureusement, comme beaucoup n'arrivent pas à avoir ce courage pour venir présenter ces choses-là.
Dommage.
Ben, effectivement, la dilapidation des terres et du foncier depuis pratiquement pas mal de temps, est un très 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 gros dossier de corruption, y compris les terres agricoles, les terres, les zones d'extension touristique, tout ce qui touche autour de ce sujet-là, c'est un très très gros problème. Et vous savez qu'il y a des dizaines, des centaines et des centaines d'hectares ont été donnés au dinar symbolique. Et ces centaines et centaines d'hectares ont été divisés en lots. Et ils ont contribué à créer de véritables empires financiers que se sont partagés ces gens du pouvoir. Il n'y a qu'à voir Bouchaoui, il n'y a qu'à voir Tipaza, Zeralda, Boumerdès. Et quand vous essayez de voir de plus près, bon, moi j'ai eu la chance de voir un peu les quelques noms qui ont bénéficié de ces... ça tourne autour du premier cercle du pouvoir. Hein. Il faut pas croire que c'est le deuxième ou le troisième cercle. C'est les plus hauts responsables, les plus hauts dirigeants du pays qui sont derrière cette dilapidation de ce foncier. Et c'est malheureux de le dire, parce que ces gens-là, quand vous les écoutez, ces gens-là, ils vous tiennent un discours totalement différent de ce qui est la réalité. Donc, effectivement, ce problème-là est un très très gros problème, et je vous cite ce que ce responsable a dit, que la corruption au niveau du foncier, elle est 10 fois plus que celle qui peut exister à son attraque.
Pour vous dire
l'ampleur de ce phénomène.
Très bien. Voilà. Très bien. Texaha, docteur, merci beaucoup pour cette intervention. Je vais passer la parole à nos deux autres invités. Je ne sais pas, je commence peut-être par Madame Hajhmou. Juste un mot pour finir à propos de ce sujet, même si on l'aura tout de suite compris que c'est un sujet qui est très important, et j'espère pouvoir organiser d'autres débats sur cette radio. On pourra organiser d'autres discussions pour traiter encore plus en profondeur, ou là pour aborder encore d'autres facettes de ce sujet qui est finalement une sorte de pieuvre comme ça, qui, si je peux me permettre de le dire comme ça, une pieuvre qui tient les Algériens, qui leur fait mal. Madame Hajhmou, juste pour résumer, une conclusion à propos de ce sujet.
Ben, je pense que je vais abonder dans le sens du docteur Maïs, que le foncier c'est vraiment un gisement de corruption et de monopole de l'État qu'il en use pour asservir les populations et les appâter. Et je pense qu'effectivement, si un jour on fait le ménage là-dedans, on va découvrir beaucoup de choses.
Très très bien, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Sichaib, yes.
Oui.
Axe yes. Mafia, très bien. Oui. Juste pour finir cette fois-ci sur ce sujet, et une petite conclusion, un résumé, si possible.
Bon, le résumé, c'est pour dire, c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé en disant que c'est un problème politique. Il n'y a pas de volonté politique de régler ces problèmes-là. On est en train de gérer le problème du logement, comme on gère le problème du terrorisme, comme on gère le problème de la violence des stades, comme on gère le problème du berbérisme. C'est ça, c'est leur rôle. Ils sont là pour gérer les petits problèmes. Mais ce n'est pas des problèmes. Pour eux, c'est des cartes, c'est des atouts qu'ils gèrent. Donc c'est pour ça que je dis que c'est des problèmes politiques. Et c'est ce qui explique justement notre engagement au CCD. Parce que on a marre de voir notre pays comme ça dégringoler. Sans rien dire, donc on a décidé de s'engager et de dénoncer ces pratiques et de ne pas se taire. Voilà.
Très bien, merci beaucoup, Lies. Merci aussi à nos deux autres invités, Madame Hajj Hamou et Docteur Maïz. Tous les trois, vous avez donc participé à cette émission à partir d'Alger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce sujet du problème du logement et du foncier. Merci beaucoup, j'espère vous retrouver très bientôt sur l'antenne de la radio. Chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir tous les mercredis soirs à 21h, heure algérienne, pour nous écouter, pour nous suivre. Et vous pouvez même participer via Skype, puisque l'antenne elle est ouverte aux auditeurs. Donc n'hésitez pas à revenir tous les mercredis soirs pour nous écouter et nous suivre. N'hésitez pas à aller sur notre site internet aussi, le site du CCD, et il y a une rubrique radio où vous pouvez écouter les précédentes émissions. Pour ceux qui les ont ratées, elles sont enregistrées au format podcast. Vous pouvez venir sur le site ccdalgérie.org pour nous écouter. Merci encore une fois de nous avoir suivi depuis tout à l'heure. Ntlaqaw nhar l'arba, inshallah, l'mokbil. Et à très bientôt. Salam alaikum. تستمعون إلى إذاعة التغيير.